Vous écoutez France Culture.
Une âme saine dans un corps sain.
Du côté de chez soi, à l'IRBI.
C'est un terme qui est emprunté au bouddhisme, mais qu'on a importé, en quelque sorte, dans notre univers du soin, de la médecine, de la thérapie. Et au fond, la pleine conscience décrit l'état de notre esprit lorsqu'il arrive à se poser dans l'instant présent, sans chercher à juger, à comprendre, à obtenir un état particulier. C'est au fond tous ces instants où notre esprit est dans une pure présence, dans un rapport à l'environnement, où on se contente d'être là, de se sentir vivant, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa conscience. On appelle ça aussi parfois la conscience ouverte. Et c'est un état psychologique qui peut parfois survenir spontanément. Ça nous arrive à tous, par moments, de sentir qu'on est très fortement présent à notre vie quotidienne, à certains moments, mais qui peut aussi se travailler. Et si on souhaite le travailler, le faire travailler, c'est parce qu'il a un certain nombre de vertus et de qualités, évidemment.
Dans le cabinet du psychiatre Christophe André, pionnier français de la méditation de pleine conscience, se pressent des patients assommés par le fracas du monde, épuisés d'être soi, broyés par l'anxiété, cassés par la compétition interpersonnelle, exténués par la culture du narcissisme ou encore abîmés par l'accélération du temps. Et il semblerait que ce patient postmoderne, perclus de douleurs psychiques et somatiques, cherche l'apaisement dans la méditation. Non pas seulement dans les pratiques contemplatives des traditions bouddhiques, zen, juives, soufis ou encore chrétiennes, mais aussi dans la méditation laïcisée, scientifiquement prouvée, la méditation de pleine conscience que Christophe André vient de définir de façon concise. Mais de quelle façon cette pratique, popularisée par le professeur de médecine américain Jon Kabat-Zinn, modifie-t-elle les structures et le fonctionnement de notre cerveau avec la promesse de surmonter certaines douleurs au cours d'une vie qui oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance en l'ennui, pour citer Schopenhauer. La méditation n'est pas seulement une pratique qui vise à prendre soin de soi, cet entraînement de l'esprit conduirait ses adeptes les plus fervents à la bienveillance, cette disposition affective qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Nous nous demanderons également si la méditation de pleine conscience, ancrée ici et maintenant, n'évacue pas un peu trop vite la théorie de l'inconscient consubstantielle d'une psychologie des profondeurs qui puise ses sources dans l'exploration du passé. Bonjour et bienvenue, bonjour Jean-Gérard Bloch.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue et directeur d'enseignement au CHU de Strasbourg et vous êtes co-responsable du diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences destiné aux professionnels de santé. Avec nous également la philosophe Sandra Laugier, professeure à Paris 1, qui apportera son regard sur la bienveillance chère aux méditants. Vous vous appuierez sur les analyses philosophiques de Stanley Cavell qui défend l'idée d'un perfectionnisme moral. Et puis avec nous également Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire chaque dimanche, et qui offrira un nouveau livre à la petite bibliothèque du côté de chez soi. Alors Jean-Gérard Bloch, vous êtes rhumatologue, c'est-à-dire médecin de pathologies aussi diverses que la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, l'arthrite, le mal de dos, la sciatique ou encore certains cancers, des maladies du corps, des maladies somatiques. Comment est né cet intérêt pour cet entraînement de l'esprit qu'est la méditation de pleine conscience, vous le praticien intime du corps douloureux?
C'est bien de pouvoir entrer en matière comme ça, parce que praticien du corps, effectivement, rhumatologue, très rapidement, j'ai été confronté et on est confronté à l'entièreté de l'être humain. Et au travers du corps s'exprime cette entièreté et des composantes de l'esprit, et on ne peut pas s'empêcher de s'intéresser à l'être humain dans sa totalité. C'est comme ça que j'ai été attiré vers le bouddhisme et les pratiques de méditation, autant à titre personnel pour mon propre développement que pour avoir une compréhension avec ce regard-là, qui est un regard complémentaire de celui des approches occidentales sur le fonctionnement du corps et de l'esprit dans un abord unifié qui est celui qui est présenté par les approches de la méditation.
Alors, les pratiques contemplatives réhabilitent le corps dans son intégralité. Pour Mark Williams, chercheur à l'université d'Oxford, nos pensées et nos émotions influencent une grande partie de nos sensations physiques, de même que ce qui se passe dans notre corps intervient sur tout ce que nous pensons.
Oui, il y a, comme le dit Mark Williams très justement, ces connaissances et ces présentations des liens entre le corps et l'esprit qui sont inscrites dans les connaissances et les pratiques du bouddhisme, quelles que soient les traditions. Et on reconnaît aujourd'hui, au travers de multiples études, ces influences réciproques du corps sur l'esprit et de l'esprit sur le corps. Et peut-être même s'oriente-t-on de plus en plus vers une instance commune qui serait à l'origine des deux.
Ce corps et cet esprit qui interagissent de façon émotionnelle, c'est devenu une évidence depuis relativement peu de temps. Dans votre perspective, l'esprit fait partie intégrante du corps, l'un et l'autre échangent constamment des informations émotionnelles, mais c'est assez nouveau cette perspective de cette alliance entre le corps et l'esprit.
Oui, c'est relativement nouveau dans l'approche de médecine occidentale, où l'évolution de la pensée sur la médecine et le fonctionnement du corps a introduit au fur et à mesure du temps une séparation très forte entre le corps et l'esprit, qui a permis aussi des grandes avancées sur le plan de la compréhension du fonctionnement du corps, mais qui maintenant aboutissent quand même à une espèce de limites dans cette vision plus intégrée. Et les recherches actuelles en médecine permettent aussi de voir qu'il y a des liens subtils qui existent au travers d'une nouvelle discipline qui s'est développée depuis quelques années, qui s'appelle de façon compliquée la psycho-neuro-immuno-endocrinologie, qui a tendance à intégrer justement différents systèmes, différentes visions d'appareils du corps qui seraient séparés et qui en fait sont beaucoup plus intégrés, mettant en lien la partie psychique, l'esprit et la partie du corps.
Alors je vous propose d'écouter le film philosophe Fabrice Midal dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel.
Un désir, au sens le plus haut du terme, il y a quelque chose qui vous brûle, vous ne pouvez pas vous résoudre à être à une vie citerne. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et en général, au fond, on pourrait dire, tout le monde a été marqué par une expérience spirituelle parce que tout le monde a fait l'expérience de quelque chose de plus haut que juste les jours ternes les uns après les autres. Et la seule question, c'est comment faire pour leur être fidèle ? La question, c'est pas, il y a des gens qui auraient une expérience spirituelle qui serait privilégiée et les autres non. Non, tout le monde a fait cette expérience. Par exemple, en étant dans la nature. Dans la nature, les gens, tout le monde a fait cette expérience d'une ouverture où on est décentré. On pourrait dire, s'il y avait une phrase pour dire en une phrase qu'est-ce que c'est la quête spirituelle, c'est d'un seul coup, ce n'est plus moi, moi-même et encore moi qui est la question, mais d'un seul coup, vous êtes intéressé, vous êtes ouvert par la beauté des choses, par le rythme du monde, par l'amour, etc. Donc, tout le monde a fait cette expérience-là, toute simple, dans la nature. Toute simple, en parlant à quelqu'un et sentant qu'il est aimé, qu'il y a une sorte de détente première qui se manifeste. Donc, ce n'est pas une expérience mystique, le cœur de l'expérience spirituelle. Le problème, c'est que notre temps porte si peu attention à cela, est tellement préoccupé par des concepts qui s'accumulent à d'autres concepts, qu'on finit par considérer comme inimportant cette question-là. Et si je regarde ma propre expérience, bon, la vie m'était absolument insupportable avant d'entrer dans le chemin. Alors, c'est pas toujours aussi tragique pour tout le monde, mais la vie m'était absolument insupportable. Je suis l'héritier d'une tradition juive où un grand nombre de familles est morte en camp, et j'étais l'héritier de, pas la troisième génération de ça, mais ça me faisait faire des cauchemars en permanence. La vie était pour moi impossible. Alors, c'est vrai que là, c'est le cas le plus extrême. Du coup, vous avez le désir est absolument brûlant. Vous ne voyez pas comment faire autrement. Il faut trouver quelque chose qui vous réoriente. Et là, c'était pour moi la découverte de la pratique de la méditation, qui me semble le cœur de la voie spirituelle, parce que libre de tout concept, de tout engagement, de toute foi, mais qui est direct, qui m'a complètement transformé et qui fait que la vie est devenue possible pour moi.
Le philosophe Fabrice Midal, le 1er septembre 2009 sur France Culture. Jean-Gérard Bloch, quel est le cheminement personnel, intime, qui vous a conduit à vous intéresser aux pratiques méditatives ? On ne se passionne pas innocemment pour de telles pratiques ?
Oui, je crois pas qu'on se passionne pour ça innocemment, mais tout le monde peut à un moment ou à un autre s'y intéresser. Effectivement, ça peut être comme l'exemple de Fabrice Midal, une grande souffrance personnelle ou héritée. Dans mon cas, ça n'a pas été ça. J'ai été intéressé à faire médecine pour à la fois essayer d'aider mon prochain et puis d'accompagner les patients dans un cheminement vers un mieux-être, mais aussi attiré par une compréhension globale de l'être humain et me comprendre moi-même. Et c'est comme ça que, faisant des études de médecine, j'ai eu l'impression de ne pas être satisfait dans cette quête en totalité. Sur beaucoup de plans, j'ai pu l'être, mais pas en totalité. Et que j'ai commencé à me tourner vers des approches de développement personnel, dont la pratique de la méditation a été un élément qui s'est présenté sur ce chemin-là et qui m'a permis d'approfondir vraiment et de trouver justement cet équilibre entre un développement personnel au travers de la méditation, pas forcément un développement spirituel, mais un développement personnel, et puis une approche qui permettait de s'ouvrir, d'ouvrir son corps, son cœur aux autres et aux patients en particulier.
À quel moment dans votre pratique de rhumatologue avez-vous eu la certitude qu'un entraînement de l'esprit pouvait soulager le corps ?
Je ne peux pas donner un moment en particulier, mais je peux dire que dans la pratique, vous citiez au début les différentes pathologies auxquelles on est confronté en tant que rhumatologue, et un certain nombre d'entre elles amènent à un contact direct avec le corps. En particulier, vous parliez du mal de dos, il y a tous les traitements manuels comme ceux que je pratique, que ce soit l'ostéopathie ou d'autres techniques, qui mettent vraiment directement en contact avec le corps. Et au travers de cette pratique, occasionnellement, il arrive de se rendre compte qu'il y a vraiment comme des nœuds dans le corps qui sont souvent chargés de composantes émotionnelles, qu'on peut ainsi aborder de façon directe avec les patients, et que c'est un petit peu ce que Francesco Varela appelait l'inscription corporelle de l'esprit, et qui est vraiment quelque chose que, en tant que rhumatologue, il m'a été possible de toucher concrètement. Et donc, les approches de méditation donnent un cadre expérientiel personnel et un cadre théorique aussi qui permet d'aborder, par exemple, ces éléments-là.
Alors, le type de méditation que vous développez en France reste laïque, sur des bases scientifiques. L'utilisation médicale de la méditation remonte aux années 1970, sous l'impulsion des travaux d'un professeur de médecine américain de l'université du Massachusetts, John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn qui a sorti la méditation du champ religieux.
Oui, John Kabat-Zinn a eu vraiment l'immense mérite de à la fois codifier d'une part et rendre accessible à tout le monde un champ de connaissances et de pratiques issus dans le fond de deux courants épistémologiques bien distincts. D'une part, les sagesses, les connaissances issues du bouddhisme, du yoga et de ces traditions orientales. Et d'autre part, les connaissances de la médecine, des sciences occidentales, des neurosciences, de la psychologie, de la physiologie du stress, et de constituer ainsi, à la confluence de ces deux courants épistémologiques, une approche que je vous disais accessible à tout le monde parce que avec un programme qu'il a fait qui s'appelle le programme MBSR, qui est un programme de gestion du stress basé sur la méditation, la pleine conscience, mais c'est possible pour tout un chacun de rentrer dans ce programme, d'apprendre personnellement ce qu'est la méditation et au travers de cet apprentissage de s'entraîner, de devenir autonome sur cet entraînement et ensuite grâce à ça d'essayer de s'orienter vers un certain mieux-être. Donc c'est une certaine application médicale. Je vous disais que son grand mérite a été à la fois de le rendre accessible à tout le monde. Alors qu'il y a vraiment des connaissances et un approfondissement théorique et pratique immense, mais aussi de le codifier. Et le codifier, il y a 30 ans, c'est ce qui a ouvert la voie à toutes les études cliniques en particulier, qui ont été les premières à montrer dans le monde scientifique et médical l'efficacité de ces approches, parce que c'est en codifiant qu'on a pu commencer à mesurer ce dont on a besoin en science et en médecine pour pouvoir comparer, valider ou invalider. Et donc ça a été le début de ces études scientifiques bien menées qui ont permis de montrer justement les effets positifs sur la santé de la méditation avec ce programme bien spécifique.
Alors le fait que des pratiques religieuses, même laïcisées, produisent une influence dans le champ scientifique, ça peut poser quelques interrogations.
C'est vrai, c'est vrai. Elles sont légitimes d'ailleurs ces interrogations, car c'est juste de se poser la question du risque de dérive sectaire, des amalgames, des utilisations malveillantes que certains peuvent faire de toutes ces approches. Donc ces questions sont tout à fait légitimes. Il ne s'agit peut-être pas d'une laïcisation de pratiques religieuses. Je voudrais peut-être présenter les choses sous un autre regard. Il s'agit en fait, en ce qui concerne le bouddhisme par exemple, d'un champ de connaissances, de philosophie, peut-être même de science. Certains parlent de science interne de l'esprit et des phénomènes, qui comporte des sciences naturelles, qui comporte de la logique, qui comporte l'épistémologie, qui comporte des connaissances médicales, et dans lesquels, dans une certaine culture, dans une certaine époque, à un certain lieu du monde, se sont développés aussi des aspects religieux sur cette base. Et que c'est au travers de ces aspects religieux qu'au travers du temps et au travers des lieux, certaines de ces traditions se sont perpétuées, certaines de ces connaissances. Et aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement des traditions orientales qui viennent présenter ces éléments-là. Mais il y a une distinction qui est possible de faire entre les connaissances abouties ou des théories présentées qui resteraient à valider sur le fonctionnement de l'esprit qui utilisent la méditation et qui, même dans ces traditions, ne sont pas religieuses. Donc ce n'est pas laïciser des éléments religieux, mais ce serait plutôt récupérer dans une forme qui puisse correspondre à notre culture des éléments universels dont la présentation se faisait au travers d'une certaine culture et dans une certaine religion.
Le regard de Sandra Laugier, philosophe, spécialiste notamment de la théorie du care.
Je crois que ce qui est vraiment passionnant dans cette... dans cet exercice de méditation, c'est qu'en effet, c'est une volonté d'aller au-delà de soi-même, de s'élever dans une forme de perfectionnisme. Hein. C'est vrai que c'est l'idée du perfectionnisme moral que l'on trouve chez des penseurs comme Thoreau, par exemple, donc les penseurs américains du 19e siècle, même si c'est très éloigné de ces traditions, eux-mêmes renvoyaient aussi à Bouddha, Confucius. Et je crois que cette idée donc, de se perfectionner soi-même et d'arriver en fait par une approche de son expérience, en fait, arriver à voir une forme plus forte, plus intense de l'expérience et du rapport à l'environnement. Je crois que là, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait universel et pas spécifiquement religieux. En tout cas, la religion est une traduction de cela. Et il me semble que cette idée de proximité au monde et d'attention à autrui, hein, c'est cela aussi qui, bien sûr, fait penser au care. Il me semble que c'est vraiment aussi ce qui est à la source de l'idée d'exercice spirituel. Ça m'intéressait aussi par rapport à cette tradition de l'exercice spirituel que l'on trouve, bien sûr, chez Platon, dans le stoïcisme. Hein, donc c'est une tradition vraiment de la Grèce antique, mais qu'on va retrouver donc dans la pensée perfectionniste américaine, chez Thoreau, on va retrouver aussi chez Michel Foucault, c'est-à-dire tout un ensemble de pensées qui vont avoir une dimension parfois religieuse ou spiritualiste, puisqu'on parle d'exercice spirituel, mais je crois que c'est aussi la notion d'exercice, hein, de s'exercer aussi soi-même.
Jean-Gérard Bloch.
Très concrètement aussi, la méditation, ça peut partir d'une certaine base de pratique qui est de développer une de nos capacités naturelles qui est l'attention. Et au travers de cette attention qu'on a besoin d'éduquer, il y a vraiment besoin d'apprendre des choses comme on apprendrait, le piano, ou comme on apprendrait à lire, à écrire, à compter ou d'autres pratiques. Donc il y a un apprentissage, il y a un entraînement, il y a une évolution. Et grâce à cette attention qui est développée, une des idées, c'est de pouvoir progressivement utiliser cet outil qui est l'attention, qui est une des facultés de notre esprit, pour observer ce qui est. Ce qui est, c'est-à-dire ce dont on fait l'expérience. À la fois en termes de l'expérience de soi-même, et ça fait appel à une capacité de notre esprit d'être autoréflexique, que les phénoménologistes et que les philosophes qui sont intéressés à l'introspection ont essayé de développer beaucoup, et que dans la tradition... dans les traditions bouddhistes, on a vraiment extraordinairement développé aussi et raffiné au fil des siècles. Donc l'attention, un apprentissage, un entraînement, cette attention tournée vers l'expérience que l'on peut faire, d'abord l'expérience de soi-même, et ensuite l'expérience que l'on peut faire des phénomènes. Et au travers de ces phénomènes, il y a évidemment la relation à autrui.
On sous-estime considérablement le pouvoir de transformation de l'esprit. On est prêt à faire de l'exercice physique pour être en bonne santé. On n'hésite pas à passer 15 ans à apprendre à l'école et à avoir une formation professionnelle. Et notre esprit, à qui on a affaire du matin au soir, on le laisse un peu en friche. Et c'est un peu dommage parce que nous avons tous le potentiel d'un meilleur équilibre émotionnel, de façon plus optimale de vivre.
Ce discours sur les bienfaits de la méditation, les scientifiques aujourd'hui le valident. Nous sommes à l'université du Wisconsin, sur le crâne de Mathieu Ricard, 256 électrodes. Depuis 8 ans, des chercheurs analysent son activité cérébrale lorsqu'il médite. Leurs conclusions sont spectaculaires. En pleine méditation, on mesure dans son cerveau une activité électrique jusqu'à 8 fois supérieure à celle d'un cerveau non entraîné. Certaines zones, qui habituellement s'ignorent, se connectent les unes avec les autres.
Nous avons découvert des réseaux dans le cortex préfrontal et aussi à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal. Et ces zones étaient fortement activées et en complète synchronie pendant la méditation.
Un extrait du journal télévisé de France 2, le 15 septembre 2008. De nombreuses expériences en neurosciences tentent de comprendre le cerveau des contemplatifs. L'expérience menée en 2008 par le neurologue Richard Davidson de l'université du Wisconsin sur le moine bouddhiste Mathieu Ricard prouve par exemple la grande fréquence de l'activité électrique gamma de son cerveau, des ondes gamma qui révèlent une intense activité créative ou méditative.
Un préambule peut-être. On commence à voir des choses dans le cerveau qui se passent grâce à des nouvelles technologies d'imagerie, et en particulier l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est-à-dire on voit des zones qui sont plus en activité que d'autres. C'est formidable. Avant, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de la tête. Mais ce n'est pas parce qu'on commence à voir des choses qu'on a tout compris de la physiologie du cerveau et même de la physiologie d'esprit. On en est même très loin, probablement. Mais... c'est formidable. Donc c'est formidable et on commence à découvrir des choses. Vous citiez Richard Davidson à l'université de Madison dans le Wisconsin, où effectivement il y a ses travaux. Richard Davidson est le pape des neurosciences affectives. C'est celui qui a montré comment les émotions qu'on pensait être une fonction inférieure de nous qui sommes des êtres humains, dont les fonctions supérieures seraient les fonctions cognitives, ce qu'on peut faire avec la pensée, comment on peut associer des idées et réfléchir. Et que l'émotion, ce serait quelque chose qui serait des fonctions plutôt primitives, animales, qui ne serait pas quelque chose d'évolué. L'énorme mérite de Richard Davidson a été de mettre en évidence, grâce à ces techniques-là, que cette zone, justement, des fonctions supérieures de l'être humain, qu'est le cortex frontal, la zone la plus périphérique, hein, eh bien, il y avait dans le cortex préfrontal gauche des zones qui étaient en lien avec la régulation des émotions et qui jouaient un rôle majeur. Et du coup, quelque chose qui est passé presque inaperçu, mais qui est complètement révolutionnaire, c'est que les émotions sont tout d'un coup passées au niveau des fonctions supérieures. Et ce que Goldman appelle l'intelligence émotionnelle est devenue, depuis 20 ans, quelque chose qui est reconnu, mais qui était complètement ignoré jusqu'alors. Alors, les méditants, bien sûr, chez les méditants, surtout quand ils ont beaucoup de pratiques, un peu à l'image d'un sportif, hein, qui, si vous êtes un amateur de tennis ou de n'importe quel sport que vous jouez tous les dimanches, et puis un petit peu plus en vacances, vous n'avez pas un niveau de tennis très élaboré. Parce que vous n'êtes pas très entraîné, vos circuits à la fois musculaires, neurologiques, et puis vos programmations mentales ne permettent pas de faire quelque chose de très haut niveau. Mais si vous entraînez 5 à 6 heures, voire 8 heures par jour toute l'année, vous devenez quelqu'un qui est capable de gagner des grands matchs et d'avoir un niveau d'excellence absolument extraordinaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des méditants qui s'entraînent avec des exercices et des pratiques de méditation exactement comme la même façon que des sportifs de haut niveau ou que des virtuoses d'un instrument, hein, de piano ou de violon, et donc qui atteignent des niveaux de performance correspondant à ces capacités-là qui sont extraordinaires. Et c'est ça qui a été vu chez Mathieu Ricard, qui fait partie de ces gens qui ont des dizaines de milliers d'heures de pratiques de méditation comme des sportifs de haut niveau ou des virtuoses.
La pratique méditative a-t-elle clairement transformé la structure du cerveau de Mathieu Ricard ? Et est-ce un acquis de la neurobiologie, le fait que la méditation transforme les structures et le fonctionnement du cerveau afin de produire des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être ?
Oui, il y a là aussi une révolution. Quand moi j'ai démarré mes études de médecine, il y a une trentaine d'années, le cerveau était quelque chose qui était figé. Et depuis maintenant 15 ou 20 ans, on a découvert quelque chose d'extraordinaire qui est la neuroplasticité, qui est le fait que le cerveau peut changer à la fois dans son fonctionnement et aussi dans sa structure. Et ça va répondre à votre question. Son fonctionnement, ça veut dire des zones du cerveau qui s'activent en lien les unes avec les autres ou qui s'ignorent et qui permettent de faire des régulations très complexes avec différentes instances qui sont impliquées là-dedans, dont certaines qui correspondent peut-être à ce qu'on appelle le soi en psychologie et qui seraient multiples, qui s'activent et qui peuvent, au travers de l'entraînement, changer dans le fonctionnement et d'activation. Et puis la structure, c'est de se rendre compte que certaines zones du cerveau, par exemple celle en lien avec la peur, l'amygdale, qui est un des éléments centraux de la régulation des émotions en lien avec la peur, peut diminuer de taille ou peut augmenter de taille. Et que chez les méditants, on trouve justement des effets sur ces composantes-là. Alors chez Mathieu Ricard, personnellement, je ne sais pas.
Et je vous propose d'écouter le reportage de Sophie Bobert. Sophie Bobert qui s'est rendue le 1er septembre dernier à une étrange séance de yoga collectif au Grand Palais. 4000 personnes rassemblées au sein d'une séance très marketée.
Bienvenue au Grand Palais pour le Lolé White Tour. Il n'y a plus qu'un quart d'heure avant le début de la séance. Pensez à placer vos affaires personnelles dans le sac cadeau prévu à cet effet. À la fin de la séance, veuillez penser à rouler vos tapis. Si vous désirez le conserver, nous vous invitons à passer à la boutique pour l'acheter au prix de 12 euros.
Savoir quelles sont les meilleures places pour voir le prof. Ici, il va voir un professeur droit.
D'accord, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous cherchez les meilleures places pour être pile face au prof?
Oui, non, mais comme on a encore un peu le choix des tapis, on voudrait se placer pour pouvoir avoir accès au professeur pour suivre les mouvements.
Et vous le connaissez, ce professeur?
Non. Enfin, on en a entendu parler, mais on n'a jamais eu de cours de yoga avec elle.
Elle s'appelle comment?
Ah, ça, je peux pas vous dire.
Ah, c'est mystère.
Ouais.
Bonjour à toutes et tous. La séance va bientôt commencer. Pourriez-vous placer vos sacs à l'arrière de vos tapis, s'il vous plaît? Merci. Isabelle Mille, vice-présidente retail et marketing de Lolé, va vous adresser quelques mots avant la séance.
Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux et merci d'avoir joué le jeu. Vous êtes tous en blanc, c'est incroyable. C'est incroyable comme vous êtes beaux. Bienvenue dans cet endroit extraordinaire qu'est le Grand Palais. Lolé est très heureux de vous accueillir pour cette dernière étape de son Lolé White Tour 2013. Après Soleil City, Toronto et Montréal, nous voici dans la plus belle ville du monde, Paris. J'ai envie de vous dire quelque chose. Lolé, c'est bien plus qu'une marque de vêtements, c'est un style de vie. Un style de vie où le bien-être est au cœur de tout ce que nous faisons. Le bien-être, c'est la recherche d'une harmonie, cette harmonie que vous ressentez déjà, ici, tous vêtus de blanc, pour cette séance dédiée à la paix. Merci Jacques Séguéla qui nous a permis de penser que oui, notre étape du Lolé White Tour aurait lieu ici au Grand Palais. Et maintenant, prenez ce moment comme votre façon de vivre Lolé, live out loud every day. Namasté.
Today, we have come here to hold and to share a message of peace.
Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour partager un message de paix.
And peace must begin with the self.
Et la paix commence avec soi-même.
Peace is about finding calmness in your heart, in your center.
La paix, c'est trouver ce calme au cœur de soi.
Remain calm, serene, and always in command of yourself.
Trouver la sérénité en soi-même.
You will then find out how easy it is for all of us to get along.
Nous permet de bien nous entendre tous ensemble.
So, can you begin by holding space for yourself and then for all those that surround you?
Alors commençons par tenir notre espace pour soi-même et pour tous ceux qui nous entourent.
Breathe in and fill yourself with love, kindness and compassion.
À l'inspiration, emplissez-vous d'amour, de bonté, de compassion.
And exhale to free yourself from negativity, hostility and conflict.
Et l'expiration vous libère de tous les conflits, de la négativité.
Reach to your right and reach to your left. And just grab a hold of hands just for one second.
Et juste pour une seconde, prenez les mains de vos voisins.
We're here in community for peace.
Nous sommes ensemble ici pour la paix. Nous commencerons la pratique par trois Om. Et peut-être sentirez-vous le pouvoir de cette intention que nous prenons tous ensemble aujourd'hui.
Inhale a breath.
Reportage de Sophie Bobert. Jean-Gérard Bloch, rassurez-moi, la méditation de pleine conscience ne ressemble pas à cette sorte de cours d'aérobic de l'esprit qui semble très consumériste, très déshumanisé, très mécanique.
Je vous rassure, c'est très difficile de réagir par rapport à des concepts qui sont maniés ainsi de paix, de sérénité, au travers de pratiques authentiques. Il y a possibilité de dérive et de marchandisation, évidemment, et donc il faut essayer de s'en préserver. Les possibilités d'utilisation correcte, authentique, intime et expérientielle existent à côté de ça, certainement.
Sandra Lougier.
Oui, mais par-delà le côté tout à fait inauthentique et mercantile hein, des émotions qui sont en jeu ici, je crois que ce qui frappe, c'est à quel point, disons, l'exercice est vraiment considéré comme une sorte de vraiment culture de soi, d'enfermement sur soi, malgré le discours sur la paix, la compassion. C'est vraiment quelque chose qui n'ouvre pas du tout sur autrui, il me semble, et renvoie vraiment à une sorte de recherche du bien-être pour soi seul, ce qui n'est pas du tout ce qui est recherché, il me semble.
Alors Jean-Gérard Bloch, revenons à la définition de la méditation de pleine conscience. La pleine conscience, c'est se concentrer sur ce que nous ressentons dans le moment présent, de maîtriser son attention, ici et maintenant. C'est une attitude épicurienne et stoïcienne. Et j'aimerais reprendre les mots du philosophe Pierre Hadot. C'est une attention à soi-même qui doit être en éveil à chaque instant, attention centrée sur le moment présent, qui est le seul moment où l'on vit et l'on agit sans se laisser distraire par le poids du passé ou l'incertitude du futur. Et en citant Pierre Hadot, il y a évidemment un lien secret entre bouddhisme, épicurisme et stoïcisme.
Oui, franchement, l'attention que l'on porte à soi-même est une attention bien particulière dans cette approche. Il s'agit d'une attention non jugeante, d'une présence à ce qui est là, tel que c'est, qui est dénué de toute intention de transformer ce qui est là. Et ce n'est pas forcément du bien-être qui est là, ça peut aussi être du mal-être.
Oui, parce que contrairement à une idée reçue, le méditant ne cherche pas forcément à éviter les émotions douloureuses, mais au contraire, il cherche à les accepter.
Oui, exactement. Ou émotions, ou sensations, il peut s'agir de douleurs physiques ou de douleurs psychiques, ou une combinaison des deux. L'idée étant toujours d'avoir suffisamment développé son attention pour pouvoir d'une façon qui soit bienveillante. Mais bienveillante, ça veut dire qu'il soit douce, qu'il soit tendre, d'observer ce dont on fait l'expérience à l'intérieur de soi-même. Et quand c'est quelque chose de douloureux, de désagréable, de se rendre compte de nos mécanismes tout à fait naturels, que nous connaissons tous, qui consistent soit à occulter ce qui est désagréable, l'ignorer ou l'éviter au travers de toutes sortes de comportements d'évitement qui peuvent être ou des états dépressifs ou des addictions ou toutes sortes de choses. Mais juste de faire ce mouvement intérieur qui consiste, au lieu d'éviter ou d'occulter, d'aller au contact de ce qui est là. Et ça nécessite beaucoup de tendresse à l'égard de soi-même, de douceur, pour s'autoriser petit à petit à aller au contact de nos zones d'ombre. Donc c'est pas forcément un voyage qui n'est fait que de plaisir, qui n'est fait que de bien-être. Mais en même temps, il y a une orientation vers le bien-être. Parce que lorsque l'on est peu ou pas familiarisé avec ses propres zones d'ombre, on est généralement victime de tas d'automatismes qui nous font réagir en lien avec les situations ou en lien avec les autres, de manière automatique et parfois destructrice, aussi bien pour nous que pour les autres. Donc c'est là que la bienveillance à l'égard de soi-même est aussi une ouverture vers le monde et une ouverture vers les autres, une attention portée aux autres.
Du côté de chez soi, Ali Rebéi.
Toutes les relations qui se nouent entre deux personnes, c'est de la bienveillance entre mari et femme, c'est cette attention envers l'autre, entre un père et ses enfants, entre un maître et ses élèves, entre un médecin et ses patients. C'est pourquoi on dit que sa pensée est celle du yin, de l'humanité, de la bienveillance. Ce n'est pas du tout une pensée inaccessible. Le yin, c'est le fait d'envisager les choses en se mettant à la place de l'autre. Le grand écrivain japonais Inoue, une archive diffusée en 1991 dans l'émission océanique sur FR3. La méditation, vous le disiez, ce n'est pas seulement une pratique qui vise à prendre soin de soi. Cet entraînement de l'esprit conduirait à la bienveillance, cette disposition affective qui vise le bien et le bonheur d'autrui.
Oui, l'idée présentée est que cette bienveillance est un petit peu notre état naturel. Et que c'est au travers de nos empêchements ou de nos illusions, de notre façon de ne pas reconnaître les choses telles qu'elles sont, que cet état naturel est empêché. Et c'est plutôt que d'aller chercher quelque chose qui ne serait pas encore là, c'est plutôt retourner à quelque chose qui est déjà là.
Sandra Laugier, je rappelle que vous êtes philosophe et professeure à Paris 1, l'une des plus grandes spécialistes de la théorie du care, mais aussi de la désobéissance civile. Vous êtes également une spécialiste de Wittgenstein, mais également du philosophe Stanley Cavell, l'auteur notamment de Philosophie des salles obscures. Vous êtes sensible à la question de la bienveillance, une des questions centrales en philosophie morale. Quelle est votre définition de la bienveillance à la lumière des analyses, notamment de Stanley Cavell ?
Alors, la bienveillance, on le disait tout à l'heure, je crois que c'est vraiment une question d'attention. D'ailleurs, ça part en effet de l'attention à soi-même. Hein. C'est vraiment l'attention à sa propre expérience, à ses propres fragilités aussi, hein. Donc à s'accepter soi-même. Je crois que c'est vraiment le point de départ de cette attention aux autres, hein, du souci des autres, qu'on appelle le care, et qu'on peut aussi rapprocher de cette idée d'une bienveillance, puisque c'est bien, la bienveillance, c'est déjà, bien sûr, vouloir le bien d'autrui. Donc je crois que c'est en effet vraiment une dimension fondamentale de toutes ces pratiques que vous décrivez, hein, qui sont aussi tournées vers autrui et pas une sorte de cultivation narcissique ou esthétique de soi-même, mais vraiment l'idée d'apporter une attention, et attention voulant dire, pour autrui comme pour soi-même, une attention différenciée, l'attention à chacun en tant qu'il est particulier. Et je crois que c'est cela l'importance de l'éthique du care, hein, c'est qu'elle a vraiment voulu définir l'éthique, non pas à partir de grands principes généraux, il faut agir comme ceci, comme cela, etc., le bien, le mal, le juste, même si, bien sûr, c'est important, mais en fonction de la spécificité de chaque personne et des interactions qu'on peut avoir avec elle. Et donc, c'est vraiment, d'ailleurs, le mot care, on pourrait le traduire par attention, hein, on n'a pas traduit, mais ça aurait pu être une éthique de l'attention. Et je crois que cette idée de bienveillance, c'est vraiment vouloir le bien d'autrui, mais je crois que ce qui est important et qui n'est peut-être pas évident dans le mot français, en tout cas de bienveillance, c'est que c'est une bienveillance qui n'est pas se mettre en position de supériorité. Parce que parfois, on a l'impression que la personne bienveillante, c'est comme vous disiez, le maître, ou c'est donc la personne qui se promène dans la rue, qui est bien portante et qui va être gentille avec les malheureux autour. Donc, il y a un rapport hiérarchique, alors que l'intérêt de la bienveillance comme attention à chacun, et en tant qu'elle peut se développer à partir de ses pratiques de méditation, d'intérêt, de cette proximité à sa propre expérience, c'est que c'est, une bienveillance démocratique. Hein. Je crois que c'est très important de dire que la vraie bienveillance, c'est une bienveillance égalitaire qui va porter une attention à autrui de façon vraiment à l'élever et à le conduire en fait à se montrer au meilleur de lui-même, et donc et soi-même s'élever à son niveau. Donc il n'y a pas de rapport de hiérarchie dans cette bienveillance. Il n'y a pas non plus le moralisme qui pourrait être associé à ce terme, hein. Je précise, parce que parfois quand on parle de bienveillance, ça peut avoir quand même une connotation un petit peu condescendante. Et je crois que quand on parle de bienveillance, c'est une bienveillance qui n'est pas non plus à partir d'un point de vue où on se sent soi-même meilleur. C'est la vraie bienveillance, c'est une pratique où on essaye soi-même de devenir meilleur à partir d'autrui. Et donc je crois que c'est vraiment l'inverse d'une bienveillance un peu condescendante qu'on voit parfois aussi sous le nom de sollicitude ou d'une certaine version du care, justement, un peu caricaturale. Donc je pense que cette notion démocratique et non moralisante de la bienveillance, c'est vraiment une des formes d'exercice moral les plus importantes qu'on peut rechercher.
Jean-Gérard Bloch.
Oui, moi je vois une certaine résonance par rapport à vos propos dans le champ des soins, de la médecine et de la santé. Et pour tous les soignants, la question se pose, y a-t-il une différence entre juste réparer ou soigner ou être au service d'un patient ? Et c'est exactement le même positionnement hiérarchique que vous évoquez dans l'idée de soigner, c'est juste réparer quelque chose qui serait malade. Et il y a ce positionnement hiérarchique entre celui qui est en bonne santé ou celui qui sait, et puis celui qui est malade ou qui ne sait pas, ou qui a un organe dysfonctionnel. Et puis le service, qui est un service où il y a une relation à un niveau humain très profond et où il n'y a pas de positionnement hiérarchique, justement. Et où, moi, j'ai constaté dans ma relation avec les patients que ce positionnement différent change radicalement les choses dans la relation et dans la place qui est laissée aux patients pour devenir plus autonome.
Sandra Logier, vous avez choisi un extrait de film pour illustrer votre vision de la bienveillance. Vous avez choisi cette scène entre un père et un fils dans O'Clock, mode d'emploi, une comédie de Judd Apatow tournée en 2007.
Tu vas devenir grand-père alors ?
Et t'es content ?
Super content, aux anges, oui.
C'est un désastre.
Mais non, c'est pas un désastre.
Un grand désastre.
Une tornade, ça, c'est un désastre. Ta grand-mère avec son Alzheimer galopant qui ne sait plus qui est son fils, on appelle ça un désastre. Toi, c'est au contraire, c'est un bonheur.
J'ai eu une vision. Une vision de mon avenir, tu vois. Et cet enfant, il jouait
attends,
aucun rôle.
Ce que tu vis maintenant, c'est
ouais,
ça ta vision.
Dire que je vis ma vision.
Eh bien, c'est très triste, hein, moi je te le dis. La vie se fout complètement de tes visions, tu comprends. Elle est faite d'imprévus qu'il s'agit d'affronter. Cool, tranquille, toute la beauté de la vie est là.
Qu'est-ce que je vais dire à ce gamin ? Que la drogue, c'est une horreur, alors que moi, je suis dedans ? C'est un vrai truc d'hypocrite.
Ben, rappelle-toi ce que je te disais quand tu étais ado.
Tu me disais quoi ?
Je te disais ni poudre, ni médoc.
C'est vrai.
Voilà. Ce qui vient de la terre, le plus souvent, ça va.
Ça a porté ses fruits. Tu voulais pas que je fume des pétards quand j'étais gosse ? Alors qu'en fait, toute la journée, tu bédavais à tour de bras.
Pas toute la journée, même. Juste le soir et toute la journée le week-end. Non, pas tant que ça.
Non, mais franchement, quand tu me regardes comme ça, tu te dis pas quelquefois des trucs du genre... Si cet enfoiré avait jamais existé, je me serais évité une putain de flopée d'emmerde, tu vois ?
Non, pas un seul instant. Je ne ressens que de l'amour à ton égard, tu comprends ? T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Je suis la meilleure chose qui te soit jamais arrivée ?
Ouais.
Bah dis donc, t'as pas eu une vie très cool.
Sandra Logier, pourquoi avoir choisi cet extrait dans O'Clock, mode d'emploi de Judd Apatow, hélas en version française?
Oui, alors cela n'apparaissait peut-être pas très bien dans l'espèce de tonalité assez un petit peu vulgaire qu'on imprime dans les doublages français à ces films qui en fait ont vraiment une grande subtilité mais qu'on ne respecte pas. Enfin, c'est une marque peut-être du manque de considération qu'on donne à ces films, finalement, dans notre culture. Mais c'était une scène où on a un père qui a une véritable bienveillance envers son fils et qui va vraiment l'aider dans un moment difficile de sa vie où le fils s'aperçoit qu'il a mis une rencontre d'un soir en cloque, hein, donc knocked up en anglais, et qui est un petit peu dérouté par cette situation. Et c'est une scène tout à fait cruciale parce que ce père part sa bienveillance en lui disant « Mais écoute, c'est parfait, moi, tu es mon fils, je t'aime, etc. » Donc, la vie est une chose vraiment, vraiment première et formidable. Et son père vraiment le rend capable d'affronter cette situation. Et je crois que c'est difficile de définir la bienveillance, mais c'est vrai qu'on voit très bien ce que c'est que la malveillance, par exemple. C'est comme le care, on ne sait pas trop ce que c'est, mais dans le care, la négligence, on sait ce que c'est. Il y a une autre scène après, entre l'héroïne du film et sa mère, où sa mère est particulièrement, justement, l'inverse, particulièrement malveillante, et l'inverse de cette attitude vraiment d'attention et d'encouragement qu'on a dans cette bienveillance.
Jean-Gérard Bloch, pour terminer, est-ce que la méditation de pleine conscience, ancrée ici et maintenant, n'évacue pas un peu trop vite la théorie de l'inconscient liée à une psychologie des profondeurs qui puise ses sources dans l'exploration du passé? Que faites-vous de l'inconscient?
Je crois que c'est peut-être à l'inverse une convergence entre les approches de la psychanalyse qui ont eu le grand mérite de mettre en évidence l'inconscient à une époque où l'inconscient, le corps, les pulsions, la sexualité étaient des choses un petit peu mises de côté. L'approche de psychologie dans le bouddhisme, on peut parler peut-être de psychologie bouddhiste ou psychologie contemplative, s'intéresse beaucoup justement à tout ce qui est du domaine de ce qui peut être accessible par l'attention et par le travail de la méditation. Inconscient ne veut pas dire inaccessible. Inconscient veut simplement dire que dans le fonctionnement habituel, normal, ce sont des composantes de la psyché qui ne sont justement pas accessibles. Et par la méditation, il y a à la fois des pratiques, des exercices qui permettent justement d'aller à la rencontre de ça, et aussi tout un champ théorique sur le fonctionnement du soi, de ce qui sont qu'on pourrait appeler des empreintes, des sortes de noyaux, de structures, de problématiques, et qui sont ce qui nourrit l'inconscient. Et il y a des théories, en tous les cas, qui sont présentées sur cet inconscient, qui sont peut-être mal connues, mais qui sont vraiment incluses dans ce champ de connaissance de la méditation.
Pour terminer, vraiment, la méditation ne guérit pas. En tout cas, elle ne guérit pas de ce grand processus de démolition qu'est la vie, pour reprendre les mots de Scott Fitzgerald.
Oui, on peut dire que la méditation permet d'aller à la rencontre de soi-même, de la vie, mais certainement pas d'empêcher la vie d'être ce qu'elle est.
Merci beaucoup Jean-Gérard Bloch, vous êtes médecin, rhumatologue et responsable du diplôme universitaire à l'Université de Strasbourg, médecine, méditation et neurosciences. Merci d'être venu dans Du Côté de Chez Soi, et merci également Sandra Logier. Je rappelle que vous êtes philosophe et professeur à Paris 1. Citez-nous vos deux derniers ouvrages.
Alors, le dernier ouvrage s'appelle « Tous vulnérables », c'est sur le Caire, mais aussi les animaux et l'environnement.
C'est chez Payot.
Chez Payot, 2012.
Et puis « Le souci des autres ».
Il y a aussi une réédition de l'ouvrage « Le souci des autres », qui était le premier ouvrage sur le Caire, donc aux éditions de la HESS.
Merci beaucoup à tous.
La petite bibliothèque du côté de chez soi.
Bonjour Cécile Guéret.
Bonjour.
Journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire chaque dimanche. Quel livre avez-vous choisi cette semaine et qui figurera dans notre petite bibliothèque?
C'est un Que sais-je édité au PUF qui s'appelle Les 100 mots de l'enfant. C'est écrit par 13 psychanalystes avec et sous la direction de Jacques André, qui est psychanalyste lui aussi. Alors en fait, pour être tout à fait juste, c'est les 100 mots de l'enfant, certes, mais aussi des parents, parce que il y a bien sûr des mots qui appartiennent à ce dialecte bien particulier de l'enfance, par exemple « c'est pas juste » ou « t'es plus ma copine ». Mais il y a aussi des mots qui relèvent plus d'un regard éducatif sur l'enfance, par exemple il est question de l'âge de raison, de caprice ou de punition. Ça, on imagine bien que ce n'est pas les enfants qui ont inventé ces mots-là. Et d'autres mots qui expriment plutôt comment les adultes et la société projettent leurs peurs, leurs défaillances ou leur culpabilité sur l'enfance, quitte à même parfois à en faire une pathologie en soi. Donc il est par exemple question d'enfant roi, d'hyperactif, un mot très à la mode aujourd'hui, et de délinquant précoce, dont on sait qu'il a été même proposé le dépistage dès l'âge de 3 ans.
Oui, des mots récupérés par le personnel politique.
Bien sûr, aussi, oui. Alors, à chaque mot, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage. L'explication est à la fois très concise et très complète. Ça, c'est vraiment à chaque fois le tour de force des que sais-je. Bien sûr, là, on a un regard psychanalytique, puisque c'est écrit par des psychanalystes. C'est-à-dire qu'ils vont porter une attention particulière aux enjeux inconscients, aussi aux différents fantasmes qui agitent l'enfance et aux différentes étapes du développement qui se logent derrière ces mots et ces expressions de l'enfance. Alors on y apprend par exemple la qualité antitraumatique du cache-cache, ça m'a beaucoup plu, qui permet à l'enfant de maîtriser l'angoisse de l'abandon, cette angoisse qui l'assaille quand par exemple le parent ferme la porte de la chambre le soir ou disparaît lorsqu'il accompagne son enfant à l'école. Et ça permet aussi à l'enfant, le cache-cache, de savourer non seulement le plaisir d'être recherché, mais aussi de se frotter un petit peu à cette peur, à cette crainte de ne pas être trouvé.
Je continue d'ailleurs à jouer à cache-cache. Alors, on va faire une petite partie après, si vous voulez.
Avec volonté. Alors, dans cet ouvrage, il y a aussi des critiques à l'encontre des adultes qui ne se mettent pas toujours à hauteur d'enfant. Par exemple, au mot « chagrin », il nous est dit que l'adulte sous-estime trop souvent ce que ressent l'enfant. Sous prétexte qu'il s'agit d'une émotion éphémère, il n'en reconnaît pas l'intensité. Parce qu'en fait, ce que nous expliquent les auteurs, c'est que la souffrance de la perte, par exemple, d'un ballon ou d'un jouet, ça n'est que la souffrance de la perte d'un objet aimé qu'on retrouve ensuite, nous, adultes, par exemple, dans les chagrins d'amour. Donc, à ne pas sous-estimer quand un enfant fait un gros chagrin parce qu'il a perdu quelque chose. Et alors, ça tombe bien parce que, justement, on en croise beaucoup.
Ils s'entraînent, en fait.
Exactement, ils s'entraînent. Et ça tombe bien parce que, justement, dans ce livre, on croise beaucoup de chagrins et de drames inconsolables. Que ce soit le drame du bobo avant, bien sûr, le baiser magique, ou le drame quand on a perdu son doudou. Bien sûr, dans ce livre, on trouve des tas de citations d'enfants qui sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Alors, je n'en garderai qu'une, qui est celle de Mozart, qui, à 3 ans, aurait dit « Je cherche les petites notes de musique qui s'aiment ». Moi, justement, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'il y a ce côté très mignon de l'enfance, mais les auteurs, en même temps, ne se cachent pas derrière cette sacro-sainte innocente qu'en général, on donne aux enfants. Au contraire, eux, ils dépeignent aussi ce que sont parfois les enfants, à savoir tyranniques et violents. En tout cas, ce qu'est l'enfance avec toute son ambivalence. Et notamment cette angoisse d'être méchant qu'ont les enfants, qui est mélangée en même temps avec l'envie qu'ils ont d'être gentils. Et ce que ça nous montre, c'est que c'est surtout une période où se joue, donc pendant l'enfance, sans phare, des enjeux qui ensuite, nous adultes, vont nous agiter toute la vie. Par exemple, cette alternance entre le principe de plaisir et le principe de réalité, ou entre ce besoin de dépendance et en même temps cette envie d'autonomie qu'on a tous, ou notre vécu d'impuissance qui est contrebalancé avec notre volonté de toute puissance. Donc ces mots d'enfance sont bien sûr amusants, ils sont déroutants, ils sont aussi parfois cruels. Pourquoi ils sont cruels ? Tout simplement parce que les enfants disent ce qu'ils pensent, comme ça leur vient, et c'est même parfois très gênant, et ils livrent des désirs dont ils ne savent pas qu'ils peuvent être inavouables. C'est par exemple le petit garçon qui dit à son père « Quand je serai grand et que je me marierai avec maman, qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Ou la petite fille qui dit à sa mère « Quand tu seras morte, est-ce que je pourrai avoir tes bijoux ?» Le livre serait aussi incomplet sans les incontournables questions auxquelles, en tant qu'adulte, on n'arrive jamais à donner une réponse définitive ou en tout cas qui satisfasse l'enfant. Alors soit qu'il n'y ait pas de réponse ou alors qu'on l'ait oublié. Par exemple, pourquoi la mer est salée ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la neige est blanche ? Bon courage ! Ou alors ces questions qui touchent aux énigmes de toujours et qui nous animent, nous aussi adultes. Celle, bien sûr, de la différence des sexes, qui intrigue beaucoup les enfants, mais aussi celle du sens de la vie ou de pourquoi de la mort.
Cécile Guéret, rappelez peut-être le titre de cet ouvrage publié au PUF, dans la collection Que sais-je ?
Oui, ça s'appelle « Les 100 mots de l'enfant » et c'est sous la direction de Jacques André.
Merci Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire chaque dimanche. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à notre peur de vivre une vie insignifiante avec le philosophe et psychanalyste Carlo Stringer, mais également avec le philosophe Jean Salem. Du côté de chez soi, était produit par Ali Rebéi, réalisé par Peyre Legras, préparé et organisé par Sylvia Favre avec l'aide de notre stagiaire Arthur Fournier. À la technique ce dimanche, Catherine Déréthée.